On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Alors, bon, 59 la naissance, 62, ben voilà, on quitte les racines, d'ailleurs, pour prendre des ailes, les racines et les ailes. 69, on découvre le vin. 70, on découvre la musique avec Brel, Brassens, Gainsbourg. Et puis, d'un seul coup, 78, c'est en voyant Michel Sardou.
75.
Ah oui, alors 75, alors on est, voilà, on va pas tatillonner, mais bon, quand même, on a 16 ans, on est hyper ado, et on découvre Michel Sardou. Non.
Quand j'étais petit garçon.
Oui, ça c'est bien, ça c'est après encore.
Ouais.
Sardou, 75, Olympia.
Et alors, c'est ça te titille là?
Bah, c'est une révélation quelque part parce que je suis pas du tout cet après-midi-là parti pour voir un chanteur de variété française.
T'es parti pour quoi là?
Je suis parti pour voir France Pays de Galles de rugby.
Ah.
Et je suis boulevard des Capucines et il y a plus de place. Au wagon lit, c'est là qu'on a acheté les places. Et du coup, je suis boulevard des Capucines avec mes 20 balles et il y a un gars devant l'Olympia qui vend deux places parce qu'il en a eu une de trop. Et qui dit, je voulais pas une place pour ce soir. Et je regarde, je lève les yeux, je vois Michel Sardou.
Ouais.
Moi, j'écoute pas Michel Sardou à l'époque. Mais je me souviens que la maladie d'amour a été très très
oui.
très utile. L'été précédent,
ça t'a procuré quelques émois.
On a fait quelques slows.
Ouais.
et je me dis pourquoi pas. Et pourquoi je me dis pourquoi pas. Curiosité.
Ouais.
Pourquoi pas. Et je prends cette place. Et j'y vais. Et à l'époque, je dis franchement, j'écoute qui? J'écoute les Stones, j'écoute Led Zeppelin, j'écoute...
Moi, je trouve que c'est génial. Tu sais que ce jour-là, les auditeurs ne savaient même pas que tu passais de France Gall à Michel Sardou. C'est ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, sur un petit pourquoi pas, voilà, tu rentres.
Voilà, et je me retrouve dans cette salle et...
Il y a un déclic, il y a quoi là?
Ah ben, c'est plus qu'un déclic. C'est-à-dire que c'est... Dès qu'il arrive sur scène...
C'est galvanisant
Je me souviens, ça commence par une chanson qui s'appelait « J'ai 2000 ans ».
Ouais.
Et puis il déroule tout ce spectacle avec cette complicité avec le public, avec la force de ses textes, de cette voix incroyable, cette rue participative. Je sais pas, à la fin, tout le monde s'en va, je suis au tout dernier rang, parce qu'en plus la place était au dernier rang de l'Olympia.
Évidemment.
Et j'ai regardé.
Bruno Cocatrix à l'époque.
J'ai regardé la scène.
Ouais.
Il n'y a plus personne dans l'Olympia. J'ai regardé la scène et j'ai dit, ben, moi un jour, je serai comme lui, je serai là. Et 12 ans après, jour pour jour, quasiment, enfin
ouais.
un mois après ou deux mois après,
ouais.
je me suis retrouvé sur la scène de l'Olympia.
Waouh, c'est beau, c'est beau. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'entre-temps, avant que tu te retrouves sur la scène de l'Olympia, tu débutes au cinéma, en fait. L'idée du coup de Sirocco, eh ben écoute, c'est vers les 79.
C'est en 78 le tournage, 79 la sortie, ouais.
On est d'accord. Tu joues le rôle de Polo.
Polo Narboni.
Polo Narboni, un pied noir rapatrié en métropole. Et puis après, c'est là que tu décides de prendre un pseudonyme, Patrick Bruel. On continue, et là je suis quand même totalement épaté. On me dit sur ma fiche, tu inventes le rap en France.
Ah non, je l'invente pas, je l'amène.
Je l'amène. C'est toi ça?
C'est nous, c'est une petite bande de copains.
On Chagrin
est à,
d'amour.
On est à New York en fait, dans cette année 79,
ouais.
80. C'est deux années que je passe à New York où je suis parti pour une histoire d'amour. J'étais parti pour 15 jours, je suis resté pratiquement 2 ans.
Il y a beaucoup d'histoires d'amour hein, avec toi. Hein.
Mais c'est ce qui nous nourrit.
Et donc là, Chagrin d'amour.
Et là, on fait des chansons avec... je rencontre Presse Gurvic, on commence à écrire des chansons, à être très, très proche. Et puis, quelques temps plus tard, on rentre en France. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est le début des radios... Il y a des radios libres là-bas.
Bien sûr.
Il y a de la FM, il n'y a pas encore la FM en France. Et on entend sur les ondes énormément de rap. Cette culture nous envahit, on trouve ça génial. On arrive en France et Gérard avait une chanson qui s'appelait 5 heures du mat. 5 heures du mat, l'édredon est tombé, j'ai un peu froid dans mes draps, le froid c'est la radio. Là. Bon, chanson est pas mal. Et là, il y a un de nos copains qui s'appelle Yves Martin
ouais.
qui dit, avec cette chanson, il faut faire un rap. Il dit, mais t'es sérieux? Oui, un rap. Il n'y a jamais eu de rap en France. Enfin, en français.
Ouais.
Ça serait génial de faire le premier rap en français.
Ouais.
Et on n'est pas très convaincus, franchement. Et il arrive à nous convaincre. Et ça devient un premier rap.
Quel est ton rôle là-dedans, en fait?
Ben, on est dans la production.
Ouais.
Moi, je suis dans les chœurs, je suis dans les...
C'est chacun mignon.
Chacun fait, là, je suis dans les
chœurs. Tu es sur le Scopitone, ouais. Tu es sur le clip derrière ou pas?
Non.
Non, d'accord.
Et ensuite, il faut trouver un artiste pour le chanter, puisque à cette époque-là, moi, je suis déjà en contrat avec Barclay.
Oui.
Gérard est en contrat avec Moshé Naïm et Yves est en contrat avec Rahim Saban à l'époque. Donc, on ne peut pas, nous trois, le chanter.
Ouais.
Et du coup, on cherche quelqu'un et ce quelqu'un, ça s'appelle Grégory Ken et il faisait partie de certaines comédies musicales.
Bien sûr.
Il arrive, il enregistre. Le lendemain, on se dit, tiens, il manque peut-être une partie féminine. Et là, c'est la femme de l'auteur,
ouais.
Bourgoin, Philippe Bourgoin,
ouais.
qui s'appelle Vali, et qui est une Américaine qui vient et qui pose le...
On se rappelle de Vali, obligatoirement.
Évidemment.
C'était Je ne veux pas travailler, tout ça, c'est ça, non? C'était quoi, Vali?
Vali, à l'époque, non. Elle faisait ensuite, elle a fait des émissions de radio. Elle a fait,
ouais, bien sûr.
Continué à faire des... Et voilà, et ça devient un truc comme ça, de copains, fait un peu rapidement. Et puis, voilà, ça devient un phénomène. Un vrai phénomène.
Ah bah attends, plus qu'un phénomène. Et puis après, c'est toi qui deviens un super phénomène, parce que j'ai la chance et j'ai la joie. À l'époque, dans le groupe Énergie, puisque j'étais sur Énergie Toulouse, et tu t'en rappelles quand même assez bien.
Absolument.
Il y a marre de cette nana-là, ça y est, il arrive, et c'est toi qui te mets derrière le micro.
J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana.
Je m'aperçois au fil du temps, après toutes ces années, comme on dit chez moi à Toulouse, que finalement, tu n'étais pas hyper chaud pour cette chanson où les copains te traitent d'homo. Aujourd'hui, on pourrait plus le dire, mais on le passe encore. Mes copains me traitent de PD, tout ça. Il faut quand même se dire que tu n'avais pas l'air pour. Et cette chanson, au début...
Comment ça, pas pour?
Bah, c'est-à-dire qu'elle ne te plaisait pas obligatoirement,
ah
cette
si,
chanson.
Ah si, elle me plaisait énormément.
Ah ouais?
Cette chanson?
Ouais.
Ah bah, moi, j'ai sauté dessus. C'était... Quand Gérard me fait écouter ça, j'ai foncé, bien sûr. Ah oui, mais la chanson était très très drôle. Elle avait un deuxième degré, elle avait
un troisième degré, elle avait de la distance,
elle avait, elle était sympa. Et puis le hook était dingue, franchement.
Oui.
Marre de cette nana, c'était
le bon hook, le bon petit refrain.
Et c'était voilà, ça a pris.
Ça a pris. Alors après, au lieu de continuer dans la musique, tu reviens avec Prof. Tu tournes aux côtés de Fabrice Luchini. Et alors là, ça donne des scènes totalement mémorables.
L'école idéale, c'est qu'il n'y ait plus d'école.
Alors ça, c'est pas demain.
Mais si, c'est demain.
Oh non, c'est pas possible.
Mais si, c'est très possible. Avec les ordinateurs, les banques de données, les cours enregistrés par les profs les plus compétents sur des cassettes.
C'est toi.
Il
hein.
Y a un trucage de voix, là, c'est pas possible.
Non, pas du tout. C'est la version originale.
On a un film des années 50.
Mais oui, c'est toi.
C'est moi. C'est moi. Oui, Prof, c'est une petite révolution, parce que c'est un film extrêmement avant-gardiste. On l'a d'ailleurs qualifié du MASH de l'enseignement, à l'époque.
Ouais.
Patrick Schulman était un visionnaire. Et ce qu'il dit dans ce film va se révéler incroyablement juste quelques années plus tard. Il y a même une scène, cette scène-là justement,
ouais.
la scène où je parle des... Je dis il n'y a plus besoin de profs, bientôt il n'y aura plus besoin de profs parce qu'il y aura des disquettes.
Ouais. On est en plein dans l'actualité là.
Sur lesquelles on pourra tout mettre, faire des ordinateurs, des machins. Et je te jure que quand je tourne ce monologue de fin de film là,
ouais.
je comprenais rien à ce que je racontais.
Ça m'étonne pas.
J'ai été voir Schulman et je lui ai dit, mais t'es sûr de ce que tu me fais? T'inquiète pas. Un jour tu comprendras.
Réécoutons ce petit extrait, parce que ça prend toute sa saveur là en 2025. Je trouve que c'est totalement juste, parce que quand j'ai réécouté ça, je me suis dit, ça va peut-être le toucher à cœur.
Alors, l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus d'école.
Alors ça, c'est pas demain.
Mais si, c'est demain.
Oh non, c'est pas possible.
Mais si, c'est très possible. Avec les ordinateurs, les banques de données, les cours enregistrés par les profs les plus compétents sur des cassettes, mieux, sur des disquettes.
C'est extraordinaire. Tu t'imagines le truc visionnaire.
On est en 85. Hein.
C'est ça que
je te dis. Il n'y a pas encore de portable.
Non, mais voilà. Il y a même peut-être pas encore de répondeur, tu t'imagines.
Il y avait déjà les répondeurs. Mais...
Ouais, on était juste quand même. Hein.
C'était extraordinaire le caractère visionnaire du film. En plus, le film est chouette, le film est resté culte. Et puis chaque fois qu'il passe à la télévision, il fait un énorme, énorme succès.
Ça ne m'étonne pas. Alors, on parcourt un petit peu ta carrière. Chemin faisant, fin des années 80 d'ailleurs, vers les 89. Alors, regarde.
C'est la voix.
Alors, dans l'album Casser la voix...
Là, c'est... Ça a été 3 ans de travail, 87, 88, 89, dans ma petite chambre, c'est mon petit appart dans le 5e arrondissement, avec un copain, avec Alain Lepa. On est là, tous les deux, on a un petit ordinateur, on a juste ce qu'il faut pour essayer d'avancer. On fait des chansons. Et puis, une fois que ces chansons sont finies... On se dit, bon, je me dis, tiens, allez, comment est-ce qu'on va faire? Et puis j'ai eu envie de travailler avec Mick Lanaro. Mick Lanaro venait de faire New York, il venait de faire Voleur de Feu avec Lavillier, et il venait de faire Chez l'air en solitaire.
Et le gars, il accepte.
Et justement, je dis, est-ce que ce gars va accepter? Et je me suis dit, comme j'ai souvent fait dans ma vie, le non, on l'a déjà, on va essayer le oui. Je l'ai appelé. C'est Christian Ergot de BMG qui l'a appelé.
D'accord.
Il m'a dit, écoute, on se voit, on écoute, on a écouté un peu les nouvelles chansons que je voulais faire. Et il me dit, je crois qu'on peut faire encore un meilleur album que ton précédent. C'était très humble de sa part. Et voilà, et on est parti.
Ah ouais,
ça a été très rapide. On est parti à New York. En fait, tout de suite, il a dit New York, ça tirait. Il me dit, je veux te sortir de ton univers. Je dis, New York, c'est plus que tu le penses, mon univers, parce que moi, j'y ai habité 2 ans. C'est des racines que je retrouve presque.
Ouais, ouais.
Donc, nous voilà à New York en juillet 89. Et pendant un mois, on va enregistrer cet album. Et à la sortie, ça va être.
Et quel album!
Ça va être une belle, belle surprise.
Il y a cassé la voix. Tous les auditeurs se disent, mais quel est le remède de Patrick Bruel quand il se casse la voix? Mais là, tu te la casses sur ça.
C'est bien que je l'ai trop dit.
Alors là, c'est la révolution totale.
Ouais, c'est-à-dire que cette chanson, hyper intime, hyper personnelle, d'un vrai. Quelque chose que tu écris à 4h du matin parce que ton histoire d'amour fout le camp.
Le mal-être.
Et tu peux pas penser qu'un jour, il y a des millions et des millions de gens qui vont la chanter avec toi. C'est très particulier et ça reste extrêmement touchant à chaque fois. Et encore hier soir dans le cinéma.
Oui, on va en parler, bien sûr.
Quand je vois les gens pendant ce spectacle qui me fête. Et c'est marrant parce qu'il n'y a aucune habitude pour moi, aucune lassitude.
C'est fou,
aucune, ça. C'est à chaque fois un émerveillement quand les gens chantent avec moi, je te le dis quand même, ou qui a le droit, ou autre. On me dit oui, mais au bout d'un moment, tu dois être. Non, au bout d'un moment, non.
Il y a cette flamme à chaque fois.
À chaque fois, tu le prends en te disant, c'est quand même pas normal.
Ouais, ça t'appartient plus, quoi, quelque part.
C'est extraordinaire. Ouais.
C'est paranormal. Et sur le même album que tu enregistres à New York, là, il y a La place des grands hommes. Même album, hein.
Alors c'est le même album et je vais te faire une petite confidence.
Vas-y.
Place des grands hommes n'est pas enregistrée à New York, elle est enregistrée à Toulouse.
Ah ouais?
Ouais, il y a 3 chansons.
Quoi, au studio Condorcet ou...
Non, à Blagnac, au studio Polygone.
D'accord, à Polygone.
À Polygone. Et j'ai enregistré 3 chansons de cet album.
Et celle-là, regarde. Tout ça, c'est le même album.
Celle-là,
quoi.
C'est New York. Ça.
Ouais, non, mais tu t'imagines?
Ouais, c'est l'album. Et en plus, dans cet album, on avait sorti 5 singles, mais il y a des chansons qui ne sont pas sorties en single, mais qui, quand je les chante le soir, on dirait que c'est des singles, comme D'or, comme La fille de l'aéroport. C'était un album.
Un album de dingue, parce que c'est là où débute la Bruel mania, le phénomène Bruel. T'es comment dans ta tête, là? Tu pètes un boulard? Tu fais quoi? On en est où? Tu gardes la tête sur les épaules, parce que c'est quand même un tourbillon de folie, non?
Faudrait demander à mon entourage de l'époque, mais péter un boulard, certainement pas. Avoir la tête sur les épaules le plus possible, mais parce que j'étais bien entouré, mais tu la gardes pas complètement sur les épaules quand tu vis un truc pareil.
Ouais.
Parce que c'est une déflagration. Parce qu'à un moment donné, tu passes de quelque chose d'à peu près normal à quelque chose qui est complètement
paranormal,
irrationnel.
Ouais.
Après, tu dois gérer cette euphorie, cet amour, cet enthousiasme,
cette effervescence.
Et puis après, les adjectifs bougent. Et après, les adjectifs deviennent un peu blessants parce qu'après, on passe à décrire le public comme un public hystérique. Donc, dès qu'il y a le mot hystérique, ça...
Ça te blesse, ça te touche?
Ça m'a toujours blessé parce que ça relève de la pathologie, l'hystérie. Donc, ce public n'était pas hystérique, c'était juste enthousiaste. Et qu'à certains... le soir, on est dans des concerts et les gens se lâchaient. Et puis, l'après-midi, ils étaient au lycée en train d'étudier.
Non, mais la Bruel mania, excuse-moi, c'était le phénomène clou-clou quelques années avant. Il y avait... alors, pour toi, tu le prends un peu péjoratif, mais c'est pas péjoratif.
Non, je prends pas pour Elmania péjoratif. Ce que j'ai pris, c'est qu'à un moment donné, on ait pu réduire le public à
une hystérie, une maladie, quoi.
Voilà, oui, à quelque chose de c'était un peu réducteur, quoi.
D'accord.
Mais l'aventure était extraordinaire, et tellement extraordinaire. Et je m'aperçois qu'elle était très profonde, parce que les gens sont toujours là.
Bah oui, parce que ça dure.
Et non seulement ils sont là, mais ils amènent leur fille, leur
sur
fils.
Toutes les générations,
leur copain,
ça marche.
Leur copine, ah bah oui, c'est fou, là.
La mamie amène la petite fille, la petite fille va faire plaisir à sa mamie en achetant un billet pour aller voir Patrick.
Et
c'est une communion, quoi.
En fait, le bloc, c'est ces jeunes femmes qui avaient, enfin, qui avaient à l'époque 15 ans ou 20 ans, qui aujourd'hui ont une quarantaine d'années, 45 ans ou plus, et qui amènent leurs enfants, mais qui amènent aussi leurs parents. J'ai beaucoup de personnes âgées maintenant dans les salles, et des enfants de 4 ans, et de 5 ans,
mais
de
c'est
15
dingue.
Ans, et de 20 ans. Alors le gros noyau dur, c'est 20-40, mais on a quand même fêté les 100 ans d'une dame à Nice, cette année, dans la salle. Tu sais que c'est une histoire magnifique, t'as pas vu ça?
Non, j'ai pas vu.
C'était génial, ça y est. Je regarde mon Instagram le soir après le concert, comme ça, je regarde.
Comme on fait que tous.
Voilà, on regarde, puis là, puis je vois un message vidéo. Et puis, alors, j'ouvre pour regarder.
Comme
et, puis je vois un message vidéo, je vois une dame qui me dit « Bonjour, j'aimerais beaucoup que vous m'invitiez à votre concert de Nice le 25 mai. »
Que vous m'invitiez.
Pour que nous fêtions mes 100 ans.
Non.
Et là, je regarde cette vidéo.
Moment suspendu, tu dis 100 ans.
Donc 8h du matin, 9h, je fais à mon tour une vidéo, je lui réponds en l'invitant évidemment.
Non, pas évidemment, non, tu prends le temps. Non,
évidemment.
Tout le monde ne le fait pas.
Enfin, ça se refuse pas en tout cas.
Ouais, bien sûr.
Et alors ensuite, on me renvoie une vidéo qui est bouleversante de elle en train de voir ma vidéo.
Ouais.
Lui répondre. Et là, c'est formidable. Donc, elle vient, on l'accueille à Nice, et elle arrive. Et puis, ce jour-là, on faisait un pot de dégustation sur mon rosé derrière.
Ouais.
Je dis bonjour. Elle me dit bonjour, je suis ravi. Je dis moi aussi, vous voulez un petit verre? Elle me dit mais avec plaisir. Et elle se lève d'un bond. Et on boit un petit coup de rosé. Et ensuite, elle va dans la salle. Et dans la salle, on fête son anniversaire avec 6000 personnes à Nice qui lui chantent. C'était vraiment un moment très, très joli, très suspendu.
Il y a des moments suspendus dans ta vie, vous l'avez bien compris, c'est bel et bien Patrick Bruel que nous avons sur Nostalgie ce soir, le vrai, je tiens à le préciser, et on va parler dans un instant de ce titre qui me touche particulièrement. Tu sais ô combien les enfants sont présents dans nos vies, et le signal que on leur envoie, tu sais qu'en ce moment, voilà, il va y avoir bientôt Léo Mattei sur la Brigade des mineurs, et toi, tu sors à un instant T ce titre-là, mais tu ne sors pas en studio. Écoutez bien, chers auditeurs, sur Nostalgie, qui a le droit ? On va en parler avec toi, Patrick, parce que ce titre, il a une vraie histoire. C'est la pudeur, c'est un enfant, qui a le droit ?
C'est un miracle, se passe ce soir-là.
Un miracle parce que j'ai fouillé un peu, j'ai creusé. Là, c'est une vraie décision personnelle. Et là, il y a maman qui est là.
Ouais. En fait, cette version qu'on entend là,
le
miracle, c'est que c'est la deuxième fois de ma vie que je la joue, la chanson.
Ouais.
Je l'ai jouée la veille, au soir, pour la première fois. Et là, je la joue pour la deuxième fois. Et le public se met à chanter comme ça.
Personne ne la connaissait avant la veille.
Non, personne. Et en fait, cette chanson, elle est prévue dans l'album à New York.
Oui.
On l'enregistre. À la fin, je trouve la version trop instrumentalisée, trop produite.
Trop belle, trop mielleuse.
Non, trop produite. La manière de Toto, un peu à l'époque et tout.
Rosanna, tout ça.
Et d'ailleurs, la version, maintenant, la version originale est disponible, puisqu'on l'a sortie dans la réédition de l'album, alors regarde, il y a quelques mois.
Oui, donc, oui.
Mais cette version ici, elle arrive pourquoi ? Parce que ma mère me dit, dans la loge du Zénith, elle me dit, mais alors, cette chanson, qui a le droit, là, tu la chanteras jamais, du coup, puisque je ne l'avais pas mise dans l'album.
Elle connaissait maman
elle connaissait la chanson, évidemment. Et elle me dit, tu la mettras jamais, pourquoi tu ne l'avais pas mise dans l'album ? Je dis, parce qu'elle n'était pas prête. Mais Amy, tu la chanteras quand ? Je dis, je ne sais pas, on verra un jour.
Et là, il y a un miracle qui se produit.
On est dans la loge. Hein.
Ouais.
Donc ensuite, je vais sur scène, il se passe incroyable concert avec cet accueil qui donne beaucoup qui me rassure beaucoup. Tu vois, je me sens plutôt bien, je me sens très en confiance à la fin. Ouais. Et les gens, une autre. Et moi, j'ai vraiment plus de chansons, j'ai plus rien à chanter. À l'époque, j'ai deux albums, quoi.
Ouais.
Et donc, je dis, j'ai une nouvelle chanson, si vous voulez, je peux la faire. Donc, je la joue pour la première fois, donc la veille de cet enregistrement, je la joue pour la première fois, pour ma mère, exactement. Et l'accueil est tout de suite tellement fort. Et le lendemain, quand je la rechante au spectacle, la salle entière la chante. Comme s'ils étaient venus la veille, ou ils étaient passés le mot, je sais pas. Et ça donne cet enregistrement. Donc,
Mais c'est un petit miracle. Ouais. Et puis alors là, il y a beaucoup de pudeur, parce que je suis désolé, mais il y a une parallèle obligatoire avec ta vie à toi, dont tu n'avais pas trop parlé avant. Tu sais ô combien c'est important, les enfants, pour nous, pour toi, pour moi, pour la transmission. Et de se dire quand même, là tu t'ouvres complètement. On n'est plus dans le marketing, on n'est plus dans l'apparence, on n'est plus
non,
dans...
Non, mais c'est un... On part toujours de choses très très personnelles quand on écrit, et moi en ce qui me concerne ça a toujours été très autobiographique. Est-ce que j'avais envie avant d'aborder ce sujet? Eh bien oui, en fait je l'avais abordé dans mon premier album, dans ma toute première chanson qui s'appelait Deux Faces. Et dans Deux Faces, il y a une phrase où j'écris sur des roulettes, sur des casinos bidons,
ouais,
un père qui passe, qui manque, mais je ferai sauter la banque.
Ouais,
donc il y a déjà une allusion.
Ouais, une allusion, subliminal.
Et ensuite, Presgurvic décide, c'est lui qui écrit le texte. Hein. Moi, je pars avec cette chanson au départ, qui a le droit pour moi. Au départ, c'est une chanson d'amour que j'ai écrite pour une très jolie histoire d'amour que j'avais eue en vacances en Polynésie avec une Australienne. Et le soir de notre départ, parce qu'elle rentrait en Australie et moi je rentrais en France, et je lui écris « Just think of me and I'll be there, just think of me ». Je fais ça, c'est une chanson d'amour. Donc moi, je rentre à Paris et je dis à Gérard, tiens, il y a cette chanson, ce serait marrant de faire un texte dessus, mais je vois pas. Je lui dis, je vois pas une chanson d'amour.
D'accord, excuse-moi
de couper. Je vois quelque chose de social.
Mais là, quelque part, alors si ça te dérange, tu me le dis, mais c'est ta vie quand même qui se passe. C'est-à-dire qu'à 3 ans, tu te retrouves seul avec maman. On le sait, si tu veux. Mais tu te mets à nu dans cette histoire.
Oui, bien sûr, mais c'est Gérard Presgurvic qui va me pousser à mettre à nu. Parce que quand je lui dis je voudrais une chanson plus sociale, et je lui dis juste un truc genre qui a le droit. Je lui dis juste ça, moi. Et le lendemain, il vient avec ce texte dont j'ai pas changé une virgule. Et lui...
Il connaissait ton histoire, obligatoirement.
Bien sûr. Et lui décide de me faire parler, de me faire accoucher de ça.
Et le Patrick, là, il se met à nu, et quand ça chante comme ça, tu te prends évidemment ton passé en pleine tête. C'est quand même, pour moi, ce qu'il y a d'important dans ta vie, ce sont les messages à laisser à nos enfants. On s'imagine pas les dégâts du comportement des parents sur la résultante de l'évolution de l'enfant, de sa tête, de son comportement dans la vraie vie. Et là, c'est quand même le petit Patrick qui parle, qui chante.
Mais après, ça fait partie de ta construction.
Du parcours.
Tu n'es pas le même s'il n'y a pas eu ce passé, cette histoire-là. Et puis bon, voilà, après, il faut relativiser. Et ce que j'ai fait par la suite. Et cette chanson a permis aussi, à un moment donné, quelques années plus tard, d'avoir une discussion formidable avec mon père. Une discussion très importante qui m'a permis, moi, de retrouver un père. Et surtout, comme c'était à la veille de la naissance de mon premier enfant, de régler ce problème, de manière à ce que derrière, y ait mes enfants, en tout cas, ne portent pas ce fardeau-là. Et au contraire, moi, j'ai retrouvé mon père, et en même temps, ils ont trouvé un grand-père.
Oui, mais il se passe combien de temps entre-temps dans ta tête, il se passe 30 ans, il se passe combien de temps?
Il se passe tout un parcours.
Ben voilà, il se passe tout un parcours. Voilà.
Mais le parcours, je me dis aujourd'hui que le parcours n'aurait pas été le même.
Maman a toujours été là.
Elle a toujours été là. Ouais. Elle est toujours là.
Ouais, elle sera toujours là, bien évidemment. Ça, c'est quand même fantastique. Mais c'est des messages qui sont forts. Et à la fois, ça a pu être dévastateur, mais ça t'a construit, comme tu dis,
justement. Et puis après, il faut comprendre les contextes, le contexte familial. On peut comprendre les choses. On peut essayer de remettre les choses en perspective. Chose qu'on ne fait peut-être pas quand on est plus jeune.
Alors, on continue. On tourne une page. Après ce petit moment émouvant sur Nostalgie. Et ben alors là, ça y est, c'est parti. C'est le poker. Alors là, d'où ça vient? T'es un joueur invétéré.
Et
là,
non, en fait, je suis pas joueur dans l'âme. J'ai jamais joué vraiment. J'ai jamais joué au jeu de hasard. Je viens des échecs. Et comme j'aime le jeu, il y a quelque chose de très très ludique dans le poker. Mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement stratégique. Et c'est la partie stratégique et analytique qui m'intéresse dans le poker.
Oui.
Du coup, ça se développe. Et puis il y a un côté très ludique. On aime le jeu, cette prise de risque. Et ça se développe. Et il s'avère que je devais avoir deux trois qualités.
Ça
m'a emmené.
Un
peu plus loin.
Je comprends que tu n'aimes pas les échecs.
Ça m'a emmené plus loin que prévu.
Ouais, beaucoup plus loin que prévu. Une histoire de foot. Tu reviens avec Jean Reno dans le Jaguar. Oh, Jean Reno quand même.
Je veux pas être possédé par un vieil Indien. Je veux pas me transformer en zombie quand ça l'amuse. Je veux pas croire à ces trucs-là. Vous m'entendez? Je veux pas. C'était pas prévu dans le contrat. J'aurais des transes et je me retrouve avec des tueurs au cul. Je me tire, je vous dis. Emmenez-moi à l'aéroport.
C'est toi!
Ah, bah oui, ça c'était une expérience fantastique.
Ouais.
Quand Francis Weber décide d'écrire pour toi, c'était un cadeau.
Ouais.
Avec ses dialogues et tout. Puis voilà.
J'aime bien l'évolution de ta voix quand même.
Cette rencontre, mais c'est incroyable. Ouais. Je crois que c'est votre machine là,
non,
qui déconne.
Non, pas du tout. C'est le vrai Patrick, je te le dis. Je ne devrais pas te le dire, mais je te le dis quand même.
Je commence à comprendre les caricatures.
Ouais, il n'y a pas de problème. Et puis après, tu fais des découvertes, toi. Alors, outre le rap, chacun fait ce qu'il lui plaît. Chagrin d'amour. Là, on arrive et on tourne une nouvelle page avec.
Ah, bah ça, c'est sur le tournage du Jaguar.
Ouais. Et toi, tu te dis, tiens, il y a peut-être une idée qui pointe.
Ah, bah, je me le dis pas longtemps. Hein. J'ai coup de cœur pour cette chanson. On est à Manaus. C'est un soir après le tournage. Moi, je suis seul dans un bar. Désespéré par une histoire qui est...
J'adore tes histoires.
Un peu désespéré, voilà. Et je suis tout seul dans ce bar où il pleut, puis il y a cet orchestre qui est en train de jouer.
Le mec, il est proche de se tirer une balle.
Bah ouais, vraiment.
Il voit 30, deux, trois danseuses qui bougent.
On est 30 dans le bar, il n'y a même pas de danseuses à ce moment-là. Il n'y a qu'un groupe qui chante.
Ouais.
Et le groupe chante, c'est assez sympa et tout. Puis à un moment donné, j'entends ça.
Ouais.
Je dis, waouh, c'est quoi ça?
Oui.
Alors j'attends la fin, il y avait tellement pas de monde que c'était pas long de
oui.
Et dès que ça se termine, je vais voir le chanteur.
Oui.
Et je lui dis, je suis un chanteur français, et j'aime beaucoup cette chanson, est-ce que vous voulez pas la rejouer?
Ouais.
Et le gars il me regarde et je dis, ouais, pourquoi? Il me la rejoue.
Ouais.
Et à la fin, je leur dis, faut qu'on se parle.
Ouais.
Voilà, et voilà, j'ai appelé un des garçons avec qui je travaillais en France, j'ai dit prends l'avion, arrive à Manaus, il y a un truc à faire là.
Et là, le...
il est venu et on a produit Carapicho. Une histoire extraordinaire. Et ensuite, il a fallu faire tout l'environnement, la danse.
Toute une structure.
Je suis retourné donc sur les terres du Jaguar pour réaliser. C'est moi qui ai réalisé le clip.
Ouais.
Et c'était un moment extraordinaire de voir cette chanson qui a embrasé le monde.
Parce à que chaque déception amoureuse, bim, tu rebondis juste derrière.
Oui, à peu près.
Tu t'imagines la carrière.
Mais c'est ce que je dis dans le spectacle. À un moment donné, j'ai dit qu'est-ce qu'on a pu créer dans la douleur. Il y en a même une un jour qui est venue nous demander les droits d'auteur.
Ça, c'est quand même merveilleux. ça, c'est fantastique. Il y en a une qui est venue me demander des droits d'auteur. On taira le nom, évidemment. Juste avant les années 2000, t'as la sortie de l'album juste avant. Ça tombe bien, juste avant 2000.
C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça.
Ben voilà.
Je te mentirais si je te disais que j'y ai pas pensé.
Encore une histoire d'amour.
Ah, oui. Si je te disais que j'ai pas voulu.
Mais
retenir le nom de sa rue.
Le sujet me touchait puisque
si je te disais,
personne n'est à l'abri de rencontrer quelqu'un d'autre.
Bien sûr.
Dans nos vies. Et à un moment donné, se tourner vers la personne avec qui on est en lui disant protège-moi de ce qui est en train de m'arriver. Je suis en train de glisser, je suis en train de tomber ailleurs. Alors, si on a envie de sauver son histoire, c'est bien de le dire. Si on n'a pas envie de sauver son histoire, c'est juste cruel et stupide. Mais si on veut sauver son histoire, prendre finalement la personne qu'on aime le plus et en qui on a le plus confiance pour lui dire quelque chose qui peut lui faire mal, mais qui peut vous sauver et vous éviter de partir ailleurs, je trouve que c'était c'est une chanson que j'aime beaucoup. Parce que c'est deux histoires, en fait. C'est une histoire,
oui, bien sûr.
C'est une histoire qui m'est arrivée.
Ouais.
Et c'est surtout l'histoire qui est arrivée à un copain à moi, en même temps.
D'accord.
Et j'ai fait un mix des deux, pour raconter ça.
Ce qu'il y a de merveilleux quand je te vois, après toutes ces années, ça fait 40 ans effectivement qu'on se croise, ce qui l'emporte, c'est ta sincérité sur le public, c'est-à-dire, quasiment, entre guillemets, t'as jamais rien caché au public. Et cette sincérité, c'était à la croisée des chemins, et tu dis...
C'est-à-dire qu'il y a toujours eu... moi, j'ai beaucoup de pudeur, en fait... Et c'est toujours de combattre un peu sa pudeur pour s'exposer. Et en même temps, J'ai eu la chance d'être accepté comme je suis. J'ai pas eu besoin d'artifice, j'ai pas eu besoin de trafiquer quoi que ce soit pour que les gens m'accordent leur affection. Si c'était pas passé, peut-être que j'aurais essayé de trouver un moyen, ou de trouver qui soit peut-être un peu moins naturel.
Bien sûr.
Là, j'ai la chance de pouvoir me présenter sur une scène, de raconter un tout petit peu ma vie et que ma vie puisse correspondre à ce que les gens ont pu vivre, ont pu ressentir, dans leur parcours. Quand les gens viennent me voir en me disant que une phrase a pu modifier leur parcours, qu'une chanson a pu changer des choses, que le fait que j'ai pu interférer comme ça dans leur histoire à travers mon travail, ou à travers mes entretiens, ou à travers ce que je suis, ça m'a rassuré sur le fait qu'il fallait continuer à être le plus naturel possible.
Ouais, le plus sincère. Le plus sincère. Mais c'est pour ça que ça marche pour la vie, justement, sur ce même album. Bah ouais.
C'est la vie. Eh ouais.
Bah ouais.
C'est joli parce que c'est le... Il y a Place des Grands Hommes, ensuite il y a une autre chanson qui s'appelle On t'attendait, qui est celui qui n'est pas venu au rendez-vous. Ensuite il y a Pour la vie, qui est OK, on s'est revus, and so what. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a encore des choses à se raconter? Est-ce qu'on a encore des choses à se dire? Est-ce que notre parcours, finalement, peut continuer ensemble? Et puis ensuite, il y aura une autre chanson à laquelle je tiens énormément, qui s'appelle Dans ces moments-là, mm-hmm. qui est cette même bande, mais qui se retrouve le jour des obsèques d'un des copains.
Ouais, c'est fou. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon introduction. Ton parcours, c'est une vraie histoire. Et à chaque fois, les chansons arrivent à point nommé, quelque part, et tu surprends encore plus les gens. Et puis, qui plus est, tu prends des risques. Parce que quand tu arrives après l'album Entre deux, tu te dis, mais d'où ça vient? Alors ça, ne pas perdre la tête? Une histoire de fou, ça.
Une histoire de fou et une histoire magnifique. En fait, ça démarre en 1980. Je suis dans un cinéma, je vois Le Dernier Métro.
Ouais.
Et le générique de début de Dernier Métro, c'est L'Amant de Saint-Jean, chanté par Lucienne Delisle.
Ouais.
Je trouve cette chanson absolument sublime. Elle revient une autre fois dans le film et je vais rester à la séance d'après pour réécouter. Pour réécouter le générique de début, ouais. pour réécouter encore cette chanson,
ouais.
Au-delà d'un film merveilleux. Et je commence à m'intéresser un peu à cette musique de cette époque-là, et autour de moi, franchement, alors personne n'écoute ça. Hein, personne.
Ouais.
Et puis quelques années plus tard, je te la fais courte, mais l'histoire est jolie.
Ouais.
Quelques années plus tard, je suis en train de faire un stage de sport à Megève.
Ouais.
Et j'ai pas le droit de sortir tard et tout, mais il y a une boîte de nuit en face de mon hôtel, et finalement, un soir, j'y vais. Et je vais dans la boîte, et il y a un orchestre qui joue.
Ouais.
Et les gars me voient, et ils veulent que je chante avec eux. Alors, je chante avec eux, et on chante tout ce qu'on peut connaître entre les Stones, entre U2, entre les Beatles, du rock, enfin tout ce qu'on veut, puis à un moment donné les gens, une autre, il est 3h30 du matin,
ouais.
Je dis ben ça va, c'est bon, on a tout chanté, je vais pas vous chanter la Java bleue,
ouais.
Et là t'as toute la boîte de nuit,
ouais.
Et qui étaient des gens d'entre 15 et 25 ans,
ouais.
Enfin, qui se mettent à chanter
la Java bleue
comme ça, d'un coup comme ça, et les musiciens qui commencent à accompagner là-dessus,
ouais.
Et on commence à faire la Java bleue, la Romance de Paris ou des trucs comme ça, mais et les gens suivent,
ouais.
Et là,
tu te dis.
Et je me dis, il y a un truc à faire, c'est pas possible.
Lucienne Delisle revient.
Et deux ans plus tard,
ouais.
je fais mon spectacle au Zénith.
Ouais.
Et j'insère un petit medley, comme ça, de ces chansons-là.
Mm-hmm.
Comme de Bien Entendu. Mm-hmm. Et puis, les gens trouvent ça chouette, les gens chantent et tout. Voilà. Et puis, quelques temps plus tard, je dois faire un album concept. C'est dans les maisons disques,
ouais.
Dit ça serait bien de faire ton album concept.
Ouais, ouais,
alors je m'étais dit bah tiens, je vais faire un album où je vais prendre des chansons du répertoire que j'aime bien, de Sardou, d'Hallyday ou de Johnny ou de
que
ou de,
Nenny
enfin d'Hallyday et Johnny, c'est le même,
Barbara, machin, tout
voilà
ça.
Et je me dis tiens, je vais faire ça,
tiens, si je faisais Jean-Philippe Smet
et je vais faire des duos. Et au moment où je présente ça à ma maison de disques,
tu te dis
écoute bien cette histoire, elle est vraie, elle est dingue.
Ouais.
Au moment où je présente à ma maison 10 ce projet, le téléphone sonne, c'est Florent qui m'appelle, qui m'appelle et qui me dit « Je vais faire un album où je reprends les chansons un peu de tout le monde, un peu françaises comme ça, et puis est-ce que tu ferais un duo avec moi sur Aznavour ?» Et je dis « Bah ouais, avec plaisir. » Et
mais
je raccroche
là... ah non.
Et je regarde les gars dans le bureau, je leur dis «
bah, mon projet, c'est plus mon projet. Je le fais plus, donc Florent va le faire. Et ben, du coup, j'ai une autre idée. Et je leur dis ça devant moi.
Ouais.
Et je leur dis, je vais faire un truc, je vais prendre les chansons des années 30.
À l'ancienne.
Et là,
ouais,
je me suis fait jeter par tout le monde.
Mais
et
évidemment.
Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement dingue, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça?
Je vais en prendre une, tant pis, j'y vais.
Et je me suis dit, écoutez, je m'en fous, ça me plaît de faire ça. Et j'ai commencé à appeler des artistes pour chanter avec moi. J'avais prévu d'en appeler 10 pour en avoir 3.
Ouais.
J'en ai appelé 10, puis j'en ai eu 12, parce qu'il n'y en a pas un qui a refusé, il y en a d'autres qui sont venus. Et je me souviens de la très jolie phrase de Laurent Voulzy, quand j'ai présenté le projet, parce qu'il a dit, j'aimerais faire Que reste-t-il de nos amours, qui est vraiment une version merveilleuse.
Ouais.
Et il m'a dit, tu vas faire plaisir à tellement de
gens. Mais évidemment.
Et tellement de personnes âgées,
ouais,
qui vont tellement aimer ça. Et c'est vrai que cet album a fait le tour de toutes les générations, pour le coup, parce que dans le spectacle, il y avait des petites filles de 10, 12 ans, des garçons avec des petites casquettes et qui venaient chanter On n'a pas tous les jours 20 ans.
Eh ben écoute, voilà, alors ta carrière, évidemment, moult rendez-vous, théâtre, le prénom que j'ai vu, c'était à l'Édouard VII, d'ailleurs, avec cette grande tirade. Le prénom, c'était quand même magique.
Ah oui, c'est une aventure extraordinaire.
De coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. Cette surenchère dans l'originalité, c'est plus des prénoms, c'est des post-it collés sur le front. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Prière de ne pas croire que je suis classique. Ici habite une famille d'intellectuels de gauche abonnés à Télérama, même s'ils n'ont pas la télé.
C'est extraordinaire.
Voilà ce que je trouve ridicule.
Ah, c'est vrai qu'Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et le Figaro Magazine.
Mais j'en fous.
Le prénom Adolphe, moi je t'assure,
non, mais
cette grande tirade à la fin où t'es tout seul face, je m'en souviendrai tout le temps, à l'Édouard VII, et t'es là, tu me parlais, mais comme si on se parlait maintenant, c'est-à-dire que tu racontais ton histoire. On va choisir un prénom. Alors évidemment, on va voir dans un instant avec les auditeurs, puisqu'on laisse la place aux auditeurs, s'ils connaissent bien ta carrière, évidemment, qui est très très grande. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Non, c'est ce soir sur Nostalgie. C'est pas Place des Grands Hommes, hein. C'est chez nous.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.